Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce soir. Donc, on va essayer de comprendre et d'expliquer un peu, comment dire, à travers Elric, comment on va passer du roman, de l'écriture à l'image pour à travers la bande dessinée. Donc, pour cette rencontre-là, on a le plaisir d'accueillir certainement un des très grands auteurs de la fantasy, Monsieur Michael Moorcock. Donc, qui a écrit de nombreuses nouvelles, nombreux romans qui ont un succès complément et qui est le créateur exactement du personnage d'Elric. Pour continuer, je recueille aussi Thomas Day, qui est romancier, novelliste, journaliste, directeur de collection chez De Noël, une collection qui s'appelle Lune d'encre, et qui est aussi l'éditeur de Michael Moorcock. Et oui, j'accueille aussi Julien Blondel, scénariste et qui a réalisé l'adaptation en bande dessinée de Elric. Bon. Ma première question ira vers Michael et je vais lui demander un peu de nous expliquer pourquoi ce personnage, il a créé ce personnage et qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ses aventures.
Well, to be honest, if you ask why, it was because an editor asked me to and paid me to. I was a working writer when I met an editor who asked me for a story of that kind, and he wondered if the modern audience would still like to read sword and sorcery. So, to cut a long story short, I decided to write a story that was as much as different as possible from anything that had happened previously, and also to try to put some ideas into the stories rather than simply be stories. Because I was fundamentally a science fiction writer, and so I still had the instincts to try to put, you know, to approach a subject in the stories.
Okay. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'un éditeur m'a demandé de le faire et m'a payé pour ça. J'étais déjà un écrivain professionnel quand j'ai rencontré l'éditeur qui m'a demandé d'écrire une histoire dans ce genre-là. Il se demandait si le public moderne de l'époque aimerait toujours lire des histoires de ce genre de fantasy, c'est-à-dire la Sword and Sorcery. Et donc quand j'ai décidé d'écrire ces histoires, pour raccourcir une histoire qui est assez longue, je me suis efforcé de faire quelque chose qui était aussi différent que possible de ce qui s'était déjà fait. Et par exemple, de mettre dans ces histoires des idées plutôt que de faire en sorte que ce soit simplement des histoires sans plus de portée ni de conséquences. Et je pense que c'est parce que j'étais auteur de science-fiction à l'époque où j'avais l'instinct de traiter un sujet au-delà de raconter simplement une histoire.
Ok. Donc, dans cette histoire, Michael, vous avez voulu aussi, comment dire, la rattacher au réel, à l'Empire britannique, c'est juste après la guerre.
Exactly, yes. And I suppose that was what I was trying to deal with, the ambiguities of that time, which were far less certain and had different issues than now, perhaps, certainly in Europe. That's what I was trying to do.
Oui, tout à fait. Je suppose effectivement que je m'efforçais de traiter l'ambiguïté de cette époque où les problèmes étaient différents et qui, par certains côtés, étaient empreints de bien moins de certitude que notre époque, la situation européenne actuelle. Donc oui, j'imagine que c'était effectivement ce que j'essayais de faire.
D'accord. Donc, je vais m'intéresser maintenant à Thomas. Thomas, j'aimerais bien que tu nous situes dans le panorama de la science-fiction et en particulier de la fantasy un petit peu l'œuvre de Michael Moorcock et surtout Elric.
Ouais, c'est une question piège, en fait, je trouve. Mais déjà, on a en Europe, enfin en tout cas en France, on a un concept de la fantasy qui n'est pas le concept peut avoir les anglo-saxons pour qui les romans de fantasy sont des romans d'enchantement du monde où il y a ce que nous on appelle l'heroic fantasy, mais il y a aussi, ils vont mettre Mister Vertigo de Paul Auster, etc. Et donc la fantasy est une, dans le monde anglo-saxon, est une littérature extrêmement large, extrêmement vaste, ce qu'elle n'a pas été en France pendant des années. Pour moi, l'apport d'Elric, c'est que avant Elric, la fantasy était globalement de la fantasy barbare, telle qu'elle a été vendue en France, c'était Conan le Barbare, ça on connaissait. Et puis après, évidemment, il y a eu Tolkien, l'apport de Tolkien, et donc les livres de Hobbit, Le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit. Et on avait une vision très très restreinte de ce qu'était la fantasy. Beaucoup de livres, comme L'Épée brisée de Poul Anderson, n'ont pas été publiés en France, il sera publié que cette année. Et en fait, quand Elric est arrivé, d'abord en Angleterre, et après chez nous, c'est l'arrivée d'un anti-héros en fantasy. C'est l'arrivée d'un personnage qui est inspiré beaucoup par la littérature, plus que par les mythes. Il y a beaucoup de choses littéraires qui viennent se greffer sur Elric. Et c'est quand même cette figure où tout est retourné, c'est-à-dire que le héros est malingre, il est dominé par son épée, il est albinos, il est quelque part c'est un monstre quoi. Et c'est ça le génie d'Elric, c'est d'avoir rendu incroyablement célèbre et incroyablement puissant un nain albinos qui est dominé par son épée maudite. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé là.
Non, je te remercie. Ouais. Oui. Je ne sais pas si Michael a quelque chose à rajouter ou pas.
Non, pas vraiment.
Et toi, Julien, donc, on va parler maintenant de ce que tu as fait, de ton travail. Donc, tu voudrais que tu m'expliques comment s'est fait la genèse et puis comment de l'adaptation des romans de Michael en bande dessinée. Comment vous avez travailler pour y arriver, parce que il y avait déjà eu quelques tentatives qui étaient plus ou moins réussies. Il y a eu des illustrateurs comme Jim Cawthorn qui a fait quand même des choses assez remarquables. Et moi, je voudrais savoir comment tu t'es inscrit dans cette tradition. Il y avait Jim Cawthorn, Philippe Drouillet et puis quelques Américains comme Greg Russell.
Alors moi, je vais pas être original. J'ai la même introduction que Michael. J'ai travaillé sur la bande dessinée parce qu'on me l'a proposé, en fait. Je suis fan des romans, des nouvelles du personnage depuis très longtemps. Je suis auteur de jeux de rôle. Et quand Didier Poli, qui est dessinateur, déjeunait avec Benoît Cousin, éditeur chez Glénat, entre autres discussions, ils se sont dit « qu'est-ce que tu ferais bien plus tard, après ta série en cours ?» Et Didier lui a répondu « je m'attaquerais bien à quelque chose d'un peu costaud, comme Conan ou comme Elric, mais à la française, avec une vision française, européenne, pas le personnage musclé, etc. » Et Benoît s'est dit « pourquoi pas, je vais contacter l'agent de Moorcock que je connais par la littérature. » Et un an et demi sont passés, Benoît revient en disant « j'ai les droits d'Elric, je monte une équipe, m'a appelé pour m'occuper du scénario, j'étais ravi. » Et très vite, en fait, on s'est mis au travail sans chercher ni à ressembler à ce qui existait avant, ni à s'en différencier, parce qu'on trouvait plus honnête de venir avec notre vision de jeunes français, lecteurs de fantasy et joueurs de jeux de rôle, et d'essayer d'arriver avec ce côté un peu gothique, un peu torturé, un peu sombre, et d'aller jusqu'au bout de ça, en fait. Donc, comment on s'inscrit dans la tradition ? Je ne sais pas, très honnêtement. Je sais qu'on est très différent des Américains, qui ont une vision plus musclée, plus aventure de Elric, et on a peut-être une vision plus proche de ce que Michael a peut-être ressenti en l'écrivant, que tel côté adolescent, torturé, jouer des dieux, manipulé, qu'on essaie de retrouver dans notre version.
Maintenant, j'aurais une question pour Michael. Il y a eu quelques adaptations, tentatives d'adapter Elric en bande dessinée. Il y a eu Philippe Drouillet, il y a eu Jim Cawthorn, on en parlait, Greg Russell. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le travail de Julien et des dessinateurs qu'ils ont fait dans Elric qu'on voit actuellement?
Well, the publisher first. Benoît Cousin, who's the editor at Glénat, who pulled all this together, he he came to me and originally showed me the artists that he wanted to use, and I was already predisposed towards the idea of a French Ulrich because I too felt that a French sensibility would actually give be more the character that I'd originally envisaged. And this isn't to detract from all the very good artists, and there have been many who have depicted Ulrich. But I don't know, instinctively I thought this would work. Actually, I hadn't expected it to be as good as it was, because at that point Julien wasn't, he hadn't written anything. it was very simple. And I was really, really impressed by the script that Julien did. And in fact, if I've said this since, but if I'd been writing it now, I would put in a lot of ideas, and it's still possible that I might go back and steal Julien's ideas and put them in a book in some obscure country like America.
Bien, effectivement, je me rappelle quand l'éditeur donc de Glénat, Benoît Cousin, et qui est celui qui a réussi à faire que ce projet se réalise, est venu me voir. En fait, à la base, il m'a montré le travail du dessinateur qu'il voulait sur ce projet, et j'ai trouvé ça très bien. Et de toute façon, de base, j'étais déjà prédisposé favorablement à l'idée d'avoir un Elric français, entre guillemets, c'est-à-dire que je pensais que la sensibilité française pourrait certainement représenter le personnage d'une façon très fidèle à ce que j'avais originellement pensé, peut-être même davantage. Ce qui n'est pas pour minimiser le travail des excellents artistes, et il y en a eu beaucoup, qui ont représenté déjà Elric par le passé. Simplement, j'avais un instinct. Mon instinct me disait que ça fonctionnerait bien. Et pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon que ça l'est. Ça a même dépassé mes espérances. Pour le simple fait, c'est que quand on a commencé à en discuter, à la base, Julien n'avait encore rien écrit, donc je n'avais pas d'idée préconçue. Et j'étais vraiment, vraiment très impressionné par le scénario que j'ai vu. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Je trouve que il est vraiment très proche de ce que j'aurais fait si j'écrivais Elric aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a vraiment d'excellentes idées. Et je n'exclus pas de prendre et de voler certaines des excellentes idées de Julien et de mettre ça dans un livre pour potentielle publication dans un quelconque pays obscur, par exemple les États-Unis.
One last thing I should mention is that the book has come out now in a number of foreign editions, some European, but it was recently published in America and England, and there have been universally good reviews there too. So there's obviously something being done right, because it's been very well received in the Anglophone world.
Et juste une chose que je voudrais mentionner, c'est que depuis, l'adaptation a été traduite à l'étranger, dans beaucoup de pays d'Europe, et notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et les critiques ont été universellement positives. Donc ça veut probablement dire qu'il y a quelque chose qui est juste et qui a été fait avec talent dans cette adaptation, puisqu'elle a été universellement bien reçue, en particulier dans les pays anglophones.
Donc maintenant, la parole est pour toi, Julien. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as procédé pour adapter, et à partir de quoi tu es parti, de quelle période de Elric tu es parti pour faire ton adaptation et créer ton scénario?
Ça va être dur de passer après toutes ces gentillesses de M. Morcoq.
Tu les mérites, pourquoi tu les mérites maintenant?
On espère les mériter. Déjà, moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'on a la chance de pouvoir travailler sur un univers, un personnage d'un auteur important qui est encore de ce monde pour avoir son regard. Et il se trouve que Michael Moorcock a un regard qui est pas fréquent chez les grands auteurs de littérature, que ce soit de genre ou de littérature générale. Il laisse faire les choses, il fait confiance. il a créé un univers, il a créé des personnages légendaires, dont Elric, et il nous laisse carte blanche après avoir regardé un peu ce qu'on faisait, après avoir juste eu un œil bienveillant. Il nous laisse travailler sur sa matière, il n'intervient pas. Quand il a des choses à dire, quand ça ne lui plaît pas, je pense qu'il le dit. Et quand il l'aime, il nous le dit avec cet enthousiasme-là, donc ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une chance de travailler sur dans ce genre de conditions. Quand on a commencé l'adaptation, on a fait une année de recherche avec Didier Poli, lui au dessin, moi au scénario, sur par quel bout on allait prendre cette saga gigantesque. Est-ce qu'on allait tout adapter? Si oui, dans quel ordre? Est-ce qu'on allait faire des coupes? Est-ce qu'on allait se concentrer sur le personnage d'Elric ou faire des ouvertures sur le champion éternel, sur Okmoun et les autres qui côtoient? Est-ce qu'on allait essayer d'être fidèle, ou est-ce qu'on allait essayer de trahir fidèlement? Parce qu'on trahit forcément quand on change de support. On passe de centaines de pages et de mots avec des descriptions, avec des émotions. On passe à un format bande dessinée où on a un nombre de pages qui est assez fixe et qui est en tout cas réduit, 46, 54. On est sur des formats extrêmement courts. Et surtout, on a une narration par l'image. Ben là, on le voit sur cette planche qui est une des planches du premier tome. Comment on passe d'un roman, comment on passe d'une histoire qu'on se raconte, d'un scénario, à une narration en bande dessinée où on doit choisir en premier lieu à quoi ressemble l'univers. Donc ça a été le travail des garçons, Didier, Robin, à quoi ressemble Melanie Bonnet, à quoi ressemblent les Melanie Bonnetiens, les costumes, comment on voit notre Elric, qui doit être cohérent dans cet univers graphique, comment on voit son épée Stormbringer, qu'on a réussi à faire patienter les lecteurs pour la faire arriver uniquement dans le deuxième tome, et ça a été difficile. Enfin, tous ces passages obligés, tous ces grands éléments constituants de la saga, les retransmettre graphiquement et ensuite réécrire ce que Michael avait écrit, c'est-à-dire le personnage d'Elric, ses motivations, son destin, dans un ordre qui se prête et un rythme qui se prête à une lecture en bande dessinée. C'est l'exercice, il est là en fait, de la même façon que adapter Elric au cinéma ou adapter Elric en série télé, ça impliquerait une réécriture de la même histoire avec un rythme différent, avec des coupes, avec des choix en fait.
Ouais, t'es obligé de faire une écriture adaptée aux médias, quoi, finalement. Complètement différente, un peu. Est-ce que tu as repris le texte, les textes qui étaient dans les, comment dire, dans les romans? Tu as repris les textes exacts ou tu as fait des coupes?
Je serais incapable de le dire. J'en ai vraiment aucune idée, en fait. On a eu une époque, pendant cette année de préparation, où j'ai dû relire deux ou trois fois des livres que j'avais déjà lus une dizaine de fois quand j'étais adolescent. Et ensuite, on s'est tous obligés à les poser, les romans, à les mettre de côté, et à rester avec l'émotion qu'on avait ressentie en les lisant, parce que c'est ça qu'on voulait retransmettre. C'est, pour nous, Elric, c'est quoi? C'est un personnage tourmenté, en révolte contre les dieux, c'est un empereur mais faible, c'est un conquérant qui peut être violent mais qui est plein d'émotions. Enfin, on a essayé de cristalliser ça et de réécrire notre histoire, et il est très possible qu'on ait repris, on ait incorporé des mots, des phrases des textes originaux. Mais je serais incapable de le dire aujourd'hui. On n'a pas cherché à copier les romans en bande dessinée parce que l'écriture n'est pas la même. Par contre, je pense que le style de Michael sur les textes fondateurs d'Elric est prégnant et a dû nous inspirer, transparaît dans ce qu'on a ressenti et ce que les dessinateurs ressortent en illustration, le côté gothique, le côté très, très anglais, très, très descriptif, très visuel qu'il avait, et idem sur les passions, les tourments des personnages. On a forcément été inspiré par ça, mais je serais incapable de dire si on a repris des textes, des romans.
D'accord. Non, je vais m'adresser à Thomas, parce que tu as fait un exercice un peu, je ne vais pas dire similaire, mais quelque chose qui ressemble un peu. Tu as travaillé avec Le Droit pour le premier album de la série Wicca. Et comment dire, comment tu es passé toi aussi du texte à l'image, ou comment tu t'es intégré dans les images de Le Droit? C'est quelque chose de légèrement différent, quoi.
Comme Michael et comme Julien, on est venu me chercher, on m'a demandé. En fait, le cheminement d'une collaboration comme Wicca, qui est une collaboration qui va prendre 6 ans de ma vie pour faire court, puisqu'il faut un an et demi pour faire un album et il y a 4 albums de prévu. Olivier Ledroit, c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans, que j'ai invité à un petit festival de BD que je faisais à Amiens il y a 20 ans, C'était mon premier contact avec lui. J'avais invité Guillaume Sorel et Olivier Vélodroit. Et tout de suite, le courant est passé. Et quand je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire quand je suis devenu éditeur, j'ai recontacté les deux compères. Et je leur ai proposé, chez De Noël, où j'avais pris la direction de la collection Présence du Futur, de faire des couvertures. Ils ont fait des couvertures. Guillaume en a fait quelques-unes et Olivier en a fait beaucoup plus. Je l'avais fait faire les couvertures des Princes d'Ambre pour casser un peu l'image que Florence Magnin avait donnée des Princes d'Ambre de Zelazny et tout. Et donc, pendant des années, Olivier et moi, on a travaillé, moi, éditeur, lui, illustrateur, et bien content de faire des couvertures pour De Noël. Puis, il a commencé à lire ce que j'écrivais en roman. Et chaque fois qu'on se voyait sur les festivals et tout, il me disait « Ah, j'ai lu ton dernier bouquin, c'est chouette et tout. » Et puis chaque fois, je lui disais « Bah écoute, ce serait cool, on travaillerait ensemble, ce serait sympa. » Parce que je suis un fan, vraiment un fan absolu. Alors, pas forcément des chroniques de la Lune Noire, j'ai découvert ça. Je trouve que c'est pas ce qu'il a fait de mieux, c'est le début. On voit déjà sa patte qui apparaît, mais c'est plutôt ce qui est venu après. Et puis un jour, il y a quelques années, on s'était retrouvés, je ne sais plus dans quel festival, et on a commencé à dire, bon voilà, nos enfants grandissent, et on est toujours été dans l'ultra-violence, dans des choses abjectes, et toujours très gore, et il faudrait qu'on fasse quelque chose qui soit un peu moins violent, et qu'on puisse donner à lire à nos enfants sans se dire qu'ils vont cauchemarder pendant 3 mois. Et on a parlé de tas d'idées sur le monde des fées, etc. Et moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Du sel sur les paupières », qui est un livre qui commence à Saint-Malo, qui continue à Guernesey, et puis après en Irlande, et enfin dans le Cid, dans le monde des morts, des Celtes. Et je lui ai envoyé le livre en lui disant, tu vois, j'ai gardé l'idée d'écrire un truc pour les gamins, j'ai fait ça. Et il m'a appelé, et je me suis dit, super, il m'appelle pour Du sel sur les paupières. Et puis non, en fait, il m'a appelé parce qu'il avait écrit un scénario de son côté, qui était Wicca. Il avait fait 200 pages de croquis, et il me dit... ouais, mais tu sais, je suis pas scénariste, alors il faudrait que tu regardes l'histoire, tout ça. Est-ce que ça t'intéresse? Et évidemment, j'ai dit oui, ça m'intéresse. Et après, on a préparé pendant 8 mois, nous, ça s'est pas passé sur un an, mais pendant 8 mois, on a discuté de ce qu'on voulait, du design, des personnages, quel personnage. Il avait l'histoire, mais elle était... c'est pas qu'elle faisait 2 pages, mais elle faisait 3-4 pages, et il avait plein d'idées, mais vraiment plein d'idées, mais tout était un peu embrouillé, etc. Il fallait faire le tri là-dedans, et donc j'ai divisé l'histoire en un nombre d'albums. Au départ, c'était 3. Puis on s'est vite rendu compte que 3, c'était pas possible. Donc c'est passé à 4. 4 albums, 64 pages. Alors 64 pages en BD, c'est énorme. Hein. Surtout qu'Olivier, il travaille en couleur directe. Donc il n'y a pas de coloriste derrière. C'est lui-même qui fait les couleurs, etc. Et on s'est lancé dans la grande aventure. Moi, c'était mon premier scénar. Et donc il m'a vraiment appris le boulot de scénariste. En montrant ce que faisait Alan Moore, Pat Mills et compagnie.
D'accord, mais alors donc tu as donné son truc dessiné, mais toi finalement tu me racontais tout à l'heure qu'il t'a amené des planches toutes faites pratiquement et dans lesquelles et toi il fallait que tu intègres tes dialogues. Et c'était quelque chose, exercice qui semblait un peu compliqué, quoi, qui t'a quand même, t'as été obligé de résoudre certaines contraintes, quoi.
En fait, après 8 mois de travail sur le scénario, sur le character design, sur tous les personnages, il m'a invité chez lui, donc je suis allé en Bretagne chez lui, du côté de Lorient et tout. Alors j'habitais l'île de Groix, c'est à 20 bornes. Hein. Et donc je suis arrivé avec mes 13 pages que j'avais découpées, les 13 premières pages de la BD pour lui montrer tout fier. Regarde ce que j'ai fait à partir du scénario et tout. Il a regardé, il m'a fait, mais non, mais en fait c'est moi qui fais le découpage et en fait, je veux découper avec des vaisseaux volants, là, tu vois. Toi, tu m'as mis des armées. Non, non, moi, je veux des vaisseaux volants, etc., etc. Donc, mes découpages sont partis à la poubelle. Et il a, en direct, ce que j'avais découpé, il l'a tout redécoupé avec ses vaisseaux volants, avec ses idées, etc., etc. Il a mis les bulles. Et puis, j'avais déjà fait les dialogues. Donc, on a récupéré les dialogues, on a mis des bulles. Là, il y en avait trop, là, il n'y en avait pas assez, etc., etc., etc. Et puis, après, on a essayé de travailler ensemble sur... concevoir la scène, j'écrivais les dialogues à l'avance et tout, ça marchait pas, ou c'était long, ou il y avait trop d'échanges entre lui et moi. Et la méthode qu'on a trouvée, je pense qu'il faut jamais faire ça, hein, mais jamais, 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 c'est on parle beaucoup de la scène, on la fixe vraiment par oral, lui et moi, on sait qu'elle fait 6 pages, on sait qu'il se passe ça, on sait que tel personnage dit ça, ce qui implique ça. Je lui donne des éléments de décor, je lui donne des éléments de dialogue et je lui dis toutes mes j'ai toutes mes petites fins de dialogue qui vont répondre plus tard dans le tome 2, plus tard dans le tome 3, plus tard dans le tome 4, parce qu'en fait, Wicca s'est conçu sur 4 tomes, et il y a des indices dans le tome 1 sur chacun des tomes qui va venir. Et il fait les crayonnés en mettant les bulles, et moi, je remplis les bulles, je remplis les voix off à partir de ces crayonnés, et des fois, je lui dis, ben là, tu m'enlèves cette bulle parce qu'elle est en trop, là, il faudrait peut-être en rajouter une, et on travaille comme ça. Alors, c'est vrai que c'est une espèce de casse-tête chinois terrible parce qu'il arrive avec 6 pages crayonnées en grand format. Il a déjà tout placé, tous les dialogues, tous les trucs. Alors que moi, j'ai griffonné 2 pages d'idées et de trucs. Donc, comme je disais, c'est la métaphore de Sherlock Holmes. Ça, c'est un problème à 2 pipes, c'est un problème à 3 pipes. C'est des problèmes. Il y a une scène sur le tome 2 de Wicca. On a passé 2 mois sur la scène. On l'a crayonné 7 fois pour arriver vraiment à ce qu'on voulait. Voilà, c'est je pense que Olivier, pendant des années, il a été bridé de travailler, enfin bridé. Il n'était pas très heureux de travailler avec des scénaristes qui lui balançaient un truc qui était tout bloqué et qui lui le limitait. Et alors, comme je dis toujours, moi, tel que je conçois mon boulot de scénariste sur le travail avec Olivier Droit, je suis au service de son dessin. Je suis toujours là pour servir exactement ce qu'il veut, le pousser le plus loin dans ses visions. Le pousser le plus loin dans la verticalité des décors, le pousser le plus loin dans le baroque, le surchargé, le dément. Et parce que c'est ça, c'est ce qu'il fait. C'est des trucs hyper détaillés, complètement fous. Et je suis à son service. Alors, il faut accepter d'être au service de quelqu'un qui a une vision et qui a un génie du dessin. Et accepter que ce n'est pas votre univers que vous allez imposer en tant que scénariste, mais que vous allez digérer, prendre pour vous l'univers d'un autre, un univers visuel très défini avec des codes très précis, les ailes de papillon, les tatouages, le côté sadomaso. Bon, évidemment, c'est le droit, donc les filles sont très sculpturales, etc., etc. C'est un côté métal hurlant. Il faut accepter d'avoir cette culture-là. Et une fois que vous l'acceptez, vous l'avez digéré, ben vous éclatez parce qu'en fait, c'est génial de travailler avec un mec comme ça. C'est génial de dire à un type, oh, ce serait super, on va casser la tour d'Avalon. Il va prendre le mec, il va le faire traverser toutes les colonnes. Et il va dire, ouais, c'est une bonne idée. Donc on prend le mec, on fait traverser toutes les colonnes de la tour d'Avalon et on casse toutes les colonnes sur une double page. Ça fait une image géniale. Donc, enfin voilà, mais c'est... Moi, toujours, je lui demande, qu'est-ce que tu veux dessiner dans le tome? Là, on est sur le tome 2. Qu'est-ce que tu veux dessiner? Donc il me fait une liste. Je veux dessiner la ville, je veux dessiner tel personnage, l'effet noir. Je veux dessiner le sanctuaire, qui est une espèce de cromlech celtique. Je veux dessiner un ciel d'orage. Je veux dessiner Wicca qui vole, Wicca qui s'amuse. Je veux dessiner des gags et tout. Donc j'ai des listes de contraintes et je coche tous les trucs. Et tant que je n'ai pas coché toutes les contraintes et que tout n'y est pas, ce n'est pas fini. Il faut continuer à bosser.
C'est un énorme travail, je ne comprends pas. Alors, peut-être, et toi, comment tu passes, toi qui étais plutôt écrivain, donc qui fais beaucoup de textes relativement longs, à des textes relativement courts, à des bulles, quand on voit sur cette planche, que c'est vraiment, tu as une, deux lignes pour t'exprimer. Comment tu fais, toi, pour travailler ça?
Comme je disais, moi, j'ai appris un métier, le métier de scénariste de BD. J'étais écrivain, et donc, quand on écrit de la prose, on est lancé dans un processus d'immersion où... Vous êtes un personnage, un point de vue, si vous prenez un personnage point de vue, et donc vous voyez le monde par les yeux d'un personnage, donc ça c'est un point de vue. Si vous écrivez en point de vue omniscient, déjà c'est plus proche du scénario de BD ou du scénario, parce que vous avez pas le point de vue d'un personnage, mais vous êtes le narrateur qui connaît tout ce que pense chacun des personnages, etc. etc. Et en fait, la grosse gymnastique de la BD, c'est l'ellipse. C'est ce qui se passe entre deux cases, ce qui se passe entre deux scènes, ce qui se passe entre deux pages, et comment ces cases qui se suivent les unes les autres, en plus chez le droit elles se suivent des fois de travers, donc c'est pas toujours facile, comment ça raconte une histoire et comment le lecteur n'est pas perdu. D'autant plus que le droit m'avait dit, je veux que l'album soit pour ma fille de 12 ans, il faut absolument que ce soit fluide, il faut absolument qu'on comprenne, et il faut absolument que les pages ne soient pas des casse-têtes. Parce que sur Requiem, qui est son autre série vampirique, qui fait en parallèle, il y a des pages qui sont des vrais casse-têtes visuels, avec des trucs retournés, des trucs de travers, des bulles qui ne sont pas vraiment là où il faudrait. Là, sur Wiccan, on n'est pas du tout, du tout là-dedans. Alors, ce n'est pas le même métier. Moi, j'essaie d'avoir l'humilité de penser que j'ai appris l'an dernier un nouveau métier, qui est le métier de scénariste, que j'ai beaucoup encore à apprendre, ça, c'est sûr. Et que, bon, je travaille avec quelqu'un qui en a quand même fait un paquet avant et qui sait. Et puis, j'écoute beaucoup ce qu'il me dit. Je vois ses points forts, son sens du rythme, son sens de la démesure, son côté baroque. J'essaie d'analyser mes points faibles à moi, notamment le fait que je suis très bavard, comme ça se voit ici. Et donc voilà, c'est un travail de concision et c'est vraiment... Moi, en plus, je me suis mis des... Alors, c'est très mathématique, mais j'avais dit à Olivier, je ne veux pas plus de 7 cases par page, 8 grand maximum, mais tu ne m'en mets pas 14 comme dans Requiem. Et j'avais dit, je ne veux pas que les dialogues fassent plus de 140 signes. On fait une bulle de dialogue qui fait 140 signes. S'il y a 3 bulles de dialogue, on fait 3 fois 140 maxi. Mais on ne commence pas à se lancer dans des trucs de dialogue dans tous les sens et tout. Et pareil pour les voix-off. Les voix-off, ces trucs qui sont dans les parchemins, qui situent la ville ou un personnage et tout. C'est 210, 170 signes ou 140 signes selon la taille des parchemins. Et donc, j'ai tous mes post-it et je sais exactement quelle taille doit avoir mes trucs. Parce que quand vous avez un dessinateur qui fait des choses aussi fouillées, aussi belles, le dernier truc que vous avez envie, c'est qu'il y ait des bulles de dialogue partout qui cachent l'image. Ça, c'est vraiment pas le truc que vous voulez. Vous voulez que les bulles de dialogue ne détruisent pas l'image, ne la déséquilibrent pas. Donc, c'est un équilibre entre l'illustration pure et la BD, qui est un art illustratif et narratif.
Merci. Et Julien, moi, je voulais savoir si... Hein ? Ah non, excuse-moi. Je voulais savoir comment tu as conçu... la narration, toi, pour lui donner la fluidité qu'elle a actuellement, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, il y a beaucoup de personnages. Et comment, avec ton... Là, je pense que c'est un travail avec le dessinateur et le coloriste, finalement, pour les ambiances, quoi.
Ben, c'est la démarche exactement opposée à celle que tu viens de décrire, Thomas, en fait, qui m'intrigue, qui m'intéresse, pour le coup, parce que nous, on bosse vraiment différemment sur Elric. On a une approche, nous, on a aussi la chance d'avoir un matériau, une matière première qu'on connaît. On est sur une adaptation, donc on n'est pas sur une création complète. On connaît déjà nos personnages, on sait par où on va passer. On démarre, je pense, de la même façon sur un séquencier, où on sait ce qui va se passer dans tout l'album. On le découpe en scènes. On quantifie nos scènes en disant cette scène-là de bataille, on va la faire durer 4 pages. On va la faire démarrer en page de gauche parce qu'on va pouvoir ouvrir sur une grande image dès qu'on va tourner la page pour être dans une ambiance où sur une double page, il y a cette ambiance de bataille. Une scène de discussion au palais, on va la faire durer 3 pages en la finissant en page de droite parce qu'on veut finir sur une grande image, ce genre de choses. Donc on a déjà, dès le séquencier, qui est le squelette, en fait, le chemin de fer de l'album, on a déjà une vision graphique puisqu'on va essayer de placer nos images choc ou nos grands moments de bravoure avec la première apparition d'un Ariok, la première apparition d'une Stormbringer dans le tome 2, le navire des terres et des mers. C'est des éléments auxquels on a envie, on doit donner de l'importance graphique, donc on les place, avant de les dessiner, on les place déjà dans notre tête sur le chemin de fer de l'album et on sait à quelle page ils vont apparaître et pourquoi. Et après... pour moi, le métier de scénariste de bande dessinée, il est propre à la bande dessinée, il est dans la narration, il est dans la discussion avec le dessinateur, le dialogue qu'on a avec le ou les dessinateurs sur comment on va raconter en images une histoire qu'on a en texte, en document papier ou dans sa tête. Thomas, tout à l'heure, parlait d'une mauvaise manière de travailler qui était de beaucoup discuter et de figer ensuite les scènes en crayonné. C'est comme ça que Boj Jodorowsky, par exemple, il le dit parce qu'il est feignant, mais c'est sûrement pas la vraie seule raison. Mais ils vont au restaurant avec ses dessinateurs, ils discutent, ils racontent, il transmet sa passion pour son histoire à son ou ses dessinateurs, et ensuite le dessinateur rentre chez lui avec quelques notes, fait l'album, fait le découpage, fait le crayonné, et Jodorowsky revient pour mettre du dialogue, pour donner son avis, mais il travaille aussi, comme tu le disais tout à l'heure. Nous, sur Elric, on n'a pas assez d'argent pour aller au restaurant tous les midis travailler à la Jodorowsky, et on a nos outils d'artisan, on fait notre storyboard à la main avec Robin, pour le coup, parce qu'on a ce dialogue sur comment on voit la scène, à quel rythme on veut lui donner, quel enchaînement. Là, on voit une page qui est une page légère pour nous. C'est une page avec quatre cases. C'est une page où on fait surtout la part belle à l'ellipse en fait et à la voix off. On raconte des choses et l'image raconte autre chose. Donc ça fait partie des pages un peu difficiles. Ça, c'est l'inverse. C'est une page où on suit case par case, bulle par bulle, le déroulé, le suivi d'un dialogue, d'un face-à-face entre plusieurs personnages, où là, on suit le texte, alors que sur la page précédente, on suivait plutôt l'image. Ça, c'est des pages qui sont au début assez frustrantes pour un dessinateur, parce qu'ils savent dès le début que les cases seront petites, qu'une fois imprimé, ce sera encore plus petit, parce qu'ils travaillent en général à un format double en A3, et qu'on va lire très rapidement les bulles, et qu'on va à peine sentir tout le travail qui est fait sur le profil d'Elric, sur sa main, sur Simoril, sur la couronne, et pourtant ces détails, ils sont là. Il y a la grande case qui est tout en bas, qui rayonne, qui teinte toute la page, mais ça fait partie de la BD aussi, c'est d'aller jusqu'à un niveau de détail très pointu sur une case sur laquelle on va passer une demi-seconde, parce qu'on va à peine sentir que le personnage est présent, et on va lire la bulle et passer à la suivante. Et le travail qu'on fait au storyboard, c'est ça, c'est le cheminement de la lecture sur cette planche, en essayant de faire passer l'œil aussi par le dessin, pour voir d'abord ce personnage d'Elric là, sur la case de gauche où il a sa main. On le voit, on lit sa bulle, on a compris son mouvement, on passe très vite à droite, on sent qu'il y a une foule, on est sur le personnage d'Irkun qui a une attitude figée, mais qui a l'air dynamique parce qu'il est entre ces deux bulles. Et tout ça, c'est l'exercice de la bande dessinée. Et c'est vrai qu'on apprend à chaque album à rythmer la narration de notre histoire en dessin.
Une dernière question à propos d'Elric. Le choix des couleurs. Quelle a été votre motivation dans les couleurs? Parce qu'elles sont quand même très particulières. Elles sont très soignées. Elles sont vraiment partie prenante, que je trouve, de la narration.
Oui, c'est le choix, c'est surtout le talent de Jean sur le premier tome, Jean Bastide. On voulait tous quelque chose de cette trempe-là, de cette ambiance-là, parce qu'il faut voir que sur une planche d'Elric, il y a un dessin, il y a un ancrage et il y a la couleur. Et les trois sont dessinateurs. Jean n'est pas que coloriste, il est aussi dessinateur, il est peintre, il a une patte que certains coloristes très grande qualité, non pas, parce qu'ils vont pas jusqu'au dessin, ils s'arrêtent vraiment à la couleur, à des choix de couleurs, et Jean va plus sur un travail de peinture, reprend des fois le trait de Robin en dessous, modifie un peu les visages. Donc on avait une équipe avec trois dessinateurs. Là, sur une case, sur une planche, on voit un dessin, qui est celui de Didier, on voit un ancrage avec la présence du noir, qui est la patte de Robin, qui des fois transforme complètement une image, parce qu'il va soit se concentrer sur un détail que Didier avait placé, soit complètement le masquer par un grand trait noir parce qu'il va jouer sur le dynamisme. Et ensuite, on a la patte de Jean qui sent l'atmosphère de la scène. Donc là, on est sur un palais avec un trône de rubis, donc il nous fallait du rouge, et on a tous eu envie de jouer sur une page avec un rouge très présent. Il y a une grosse présence de noir, et on a ce personnage d'Elric, iconique, qui est blanc, albinos, cheveux longs blancs, les yeux rouges. C'est la figure imposée de l'adaptation BD. C'est un personnage qui est, dès son arrivée, graphiquement, rayonne sur la page. C'est un empereur albinos aux yeux rouges avec une épée noire. Donc on a forcément déjà un code graphique qui est posé par Moorcock dès les romans, dès les descriptions du personnage et des autres, et sur lequel mes trois talentueux collègues brodent d'album en album pour arriver aux pages.
Juste une dernière question. Est-ce que le fait que tu aies travaillé sur des jeux de rôle t'a aidé à jouer, à faire ce scénario?
Je pense. Moi, très humblement, tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais grâce aux jeux de rôle. J'ai commencé par ça. Je suis rôliste depuis que j'ai 10 ans. Je lis des livres dont vous êtes le héros. J'ai commencé à travailler, à écrire par le jeu de rôle, par des scénarios de jeux de rôle. Ensuite, j'ai écrit mes jeux. Et je pense que c'est le média, un des médias les plus exigeants, parce qu'on doit, nous, on raconte pas d'histoire en jeu de rôle. On crée des univers et on invente des règles qui vont permettre à des gens qu'on connaît pas d'inventer des histoires dans notre univers. Donc on a une approche qui est plutôt macro, où on va penser au monde, on va devoir tout savoir sur tous les éléments d'un univers, le poids d'une épée, le temps de voyage entre deux villes, en quelle matière est fait tel bateau. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient magique pour faire tel sortilège? Enfin, on doit tout savoir quand on travaille sur une création d'univers de jeu de rôle. Et je pense que oui, ça nous a aidés tous, hein, parce que mes collègues ont même le même background que moi. Ils ont été joueurs de Stormwinger et d'Elric, des versions de Chaosium. Et je pense qu'on connaît plus, on connaît mieux Elric et son univers par le jeu de rôle que par nos souvenirs des romans, parce qu'on les a explorés pendant des nuits entières en jetant des dés, en invoquant des seigneurs du chaos. Ça nous a aidés, je pense, à la fois parce qu'on a baigné dedans et ça nous a donné une structure de changer de point de vue régulièrement, de ne pas être dans le sillage d'Elric en tant que personnage de case en case, mais des fois de remonter un peu la caméra pour voir au niveau de l'univers, du royaume, ce qui se passe, et d'avoir une vision un peu plus, plus long terme que simplement le scénario, je pense.
On va laisser peut-être la conclusion à Michael. Michael, vous disiez tout à l'heure que vous peut-être vous inspireriez ce qui avait été fait dans la bande dessinée pour peut-être écrire une nouvelle histoire de Elric ou quelque chose comme ça. Going through Julian's elements to write a new story of
Elric, would you be doing that? Not yet. Only because I have a couple of other Elric stories yet to write. I would like to say something in terms of color. I've always planned my books in terms of a palette. So it's another interesting aspect to see it transformed in that way. It's not the same palette that I originally used, and it became more sophisticated as I went on. But the color is very important in this kind of story, I think. Yes. Sorry, I just wanted to add.
Okay, thank you, Michael.
Pas encore, ne serait-ce que parce que j'ai d'abord encore une ou deux histoires d'Elric à écrire que je voudrais faire. Ce que je pourrais mentionner, c'est que sur le plan de la couleur, qu'on parlait tout à l'heure, je vois beaucoup, j'envisage et je planifie beaucoup mes livres en termes de palette. Et c'est un autre aspect intéressant de cette adaptation, de ce travail de transformation, puisque c'est pas forcément la palette que moi j'envisageais à la base, et qu'au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce monde-là, elle est devenue plus sophistiquée. Donc il y a cet aspect de palette qui est assez fort, et c'est intéressant de voir la palette qui est employée par les adaptateurs.
Ok. Ben, merci Michael, merci Julien, merci Thomas. S'il y a quelques questions dans la salle, on a quelques minutes. Attends, il y en avait une là, je crois.
Bonjour. J'ai également découvert Elric par le jeu de rôle. Est-ce que vous n'avez pas une légère pression en adaptant un personnage comme ça, qui est quand même iconique, et de décevoir des personnes?
C'est pour toi, Julien, je pense.
Je dois comprendre que je t'ai déçu, c'est ça? Non. Non, pour être très franc, la vraie pression qu'on a ressentie, c'est au moment où on a commencé à travailler sur l'adaptation. Pas par peur de décevoir les autres, parce qu'encore une fois, on s'est estimé très chanceux qu'on nous confie Elric et de pouvoir travailler sur notre vision, mais on a eu très peur de pas être à la hauteur de ce qu'on avait ressenti à 10 ans, 12 ans, 15 ans quand on les avait lus, et de ne pas réussir à transcrire cette magie, ce côté « waouh, il se passe un truc énorme, là, ce personnage, il me touche les », les longues nuits de jeu de rôle dans l'univers de Storm, les parties de Storm, on laissait des traces et on n'était pas sûr de réussir à retranscrire cette magie-là, en fait. Parce que ça reste une histoire très complexe, très longue, avec plein de morceaux de bravoure, et on n'était pas sûr d'avoir le temps de tout adapter. Il fallait qu'on choisisse par quoi on commence, il fallait qu'on trouve une vraie gueule à ce Elric en dessin. Après, je pense qu'on les connaît, les rôlistes. On joue un peu moins qu'il y a 20 ans, mais on est toujours là. On sait que c'est un public de fans qui est impitoyable, mais des deux côtés, en fait. On s'est fait retoquer pour la forme des oreilles dans l'adaptation. On a été élu meilleure adaptation des oreilles de Ménie Bonéen ever par un site américain. Quand même. Donc ça va jusque là, ça va jusqu'à ce niveau de détail là, quoi. Donc pour l'instant, on se sent privilégié, et on sait surtout que si là on le voit sur notre page Facebook, par exemple, on reçoit des messages, pas de menaces, pas d'insultes pour l'instant, des choses plutôt gentilles. Mais on sait que si on fait un choix sur une scène, On a fait des coupes, on n'a pas fait apparaître Rakir dans le tome 2, on s'est pris des dizaines de messages là-dessus. On sait qu'on aura du retour. Et pour l'instant, les retours qu'on a, y compris de rôlistes et de lecteurs hardcore, sont OK, c'est pas comme dans les romans, mais ça tient la route, donc ça va. On vous laisse la vie sauve pour cette fois.
Bonsoir, j'ai une question pour Michael. Quand moi je pense à l'adaptation d'Elric, je pense à deux excellents albums de rock du groupe Hawkwind, qui sont Chronicle of the Black Sword et Warrior on the Edge of Time, sur lesquels vous avez chanté, écrit les paroles et collaboré. Et je voulais savoir si en multipliant les différentes adaptations d'Elric, vous essayez d'apprendre des choses nouvelles sur votre propre héros.
Oh yes, yes, always. And in fact, that's another thing that's helped me here with these books. They make me think about different aspects of the character. Absolutely, no question of it. I started with Jim Cawthorne, who was the first person to draw Elric, and we began by I used to write comics. I was writing comics at the same time as I was writing the first Elric stories, and so Jim and I really used the same techniques that we would use writing a comic. So I've been doing that forever. Every good artist or script writer that comes along usually will give me an extra thought.
Oui, tout à fait, et c'est toujours le cas. En fait, c'est un des aspects qui sont très très intéressants pour moi, le fait d'être ici, c'est qu'à chaque fois je découvre des aspects différents du personnage. Donc oui, absolument, tout à fait, très bonne remarque. Je me rappelle quand j'ai commencé avec Jim Cawthorne, quand on qui est le premier à avoir dessiné Elric. En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire Elric et ses récits, j'écrivais et j'étais également scénariste de BD, de comic books. Et en fait, finalement, Jim et moi, on a beaucoup utilisé les mêmes techniques. Donc, c'est quelque chose, cette approche à plusieurs facettes, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et chaque bon scénariste, chaque bon illustrateur, chaque bon dessinateur qui représente ce personnage, ça me donne toujours des nouvelles idées et des pensées supplémentaires pour aborder ce personnage. Donc oui, tout à fait.
Bon, je crois qu'on va devoir conclure parce qu'il y a la cérémonie de la remise. Oh, pardon. Ouais, parce qu'il y a la cérémonie de la remise des prix. Moi, en conclusion, je dirais que Elric, c'est quelque chose qui moi aussi m'a marqué quand j'étais jeune. C'est une série remarquable. Je trouve que l'adaptation qu'ont fait Julien et ses collaborateurs et ses copains, je vais dire plutôt des copains, est assez remarquable. Et pour bien le découvrir, je vous invite à regarder les livres et à lire les deux préfaces. L'une faite par Michael Moorcock et l'autre par Alan Moore. Elles resituent très très bien leur travail et le travail qu'ils ont fait, qui est vraiment un travail remarquable. Je crois que la série comportera combien d'albums ?
Un cycle de 4 tomes.
D'accord.
Et on continuera en cycle de 4 tomes sur d'autres aspects de la saga.
Et je crois que Julien va le confirmer, le succès est au rendez-vous. Je crois qu'ils ont vendu à peu près 30 000 exemplaires du premier volume, non ?
Les chiffres, oui, environ, mais surtout on est traduit dans différentes langues, et ça c'est très...
Donc
très
ce, qui quand même, ce qui prouve que le public réagit très bien, parce que cette série, elle plaît dans un marché qui est un peu compliqué actuellement. Voilà, on va remercier Michael. Avec qui c'est toujours un vrai plaisir de discuter. Thomas, merci beaucoup d'avoir participé et de nous avoir expliqué quand même quelque chose de... Je pense que tu as montré aux gens quand même que le travail d'écrivain ou de scénariste de BD était quelque chose de... Il fallait beaucoup d'engagement. Et merci Julien, et puis bon vent.